Pour revenir au sujet, je le rappelle très rapidement, ce que je vous avais cité à ce moment-là, il y a dans le Vezot HaBeracha, le Midrash Rabba, sur la paracha de Vezot HaBeracha, un Midrash très long, c'est qu'au moment de la, où le Moïse devait mourir, la Neshama, l'âme de Moïse, n'a pas voulu quitter Moïse, et l'ange de la mort ne pouvait pas faire son travail, si j'ose dire. Et alors la Neshama discute avec l'ange de la mort, en se comparant avec la Neshama de tous les grands d'Israël depuis Abraham, et en montrant qu'elle est, qu'elle a beaucoup plus de mérite que même la Neshama d'Abraham, d'Isaac, Jacob, de tout le monde. Et finalement, Dieu intervient et dit à la Neshama de Moïse, tu as fait une faute, c'est que tu as tué l'Égyptien. Alors la Neshama de Moïse répond, je ne sais pas si c'est dans le texte ou dans mon commentaire, mais enfin, la Neshama de Moïse répond, comment, moi j'ai tué un Égyptien, mais toi tu les as tués tous. Et Dieu répond, mais moi je peux les ressusciter, ce qui n'est pas ton cas. Animemit umchaye. Toi tu ne peux pas. Alors ici il y a un thème important. La disparition de l'identité égyptienne de ce temps-là comme condition de la survie d'Israël. C'est un thème extrêmement important. Okay? Et même si c'était à faire, il fallait le faire pour sauver Israël, c'est pour ça que Moïse n'est pas en train de guérir Israël. Voilà comment ça se résonne. Vous comprenez le problème. Et quand la Neshama de Moïse a entendu cela, elle a accepté de remonter au ciel. Et en réalité, la réponse qui nous est donnée est d'un tout autre ordre. C'est qu'il ne fallait pas que Moïse entre en Eretz Israël. Parce que si Moïse était entré en Eretz Israël, c'est lui qui aurait construit le temple. Et quelque chose que Moïse a fait, quoi que ce soit que Moïse a fait, est indestructible. Il y a chacun des grands hommes d'Israël a une mida, une vertu particulière. La vertu de Moïse s'appelle Netzach. Netzach Israël, Loï Shaker, vous connaissez le verset. Ça veut dire tout ce que Moïse a touché est victorieux et éternel. La tradition des patriarches, à travers Moïse, ça devient irréversible. Torah Tzivalanu Moshe, Moïse Kriyatia. Et alors, si le temple avait été indestructible, si par malheur Israël avait démérité, c'est Israël qui aurait été détruit. Or, le temple a été détruit quand Israël a démérité pour sauver Israël. Et par conséquent, si Moïse n'est pas rentré en Eretz Israël, c'est pour sauver Israël. Et le raisonnement est beaucoup plus fin que ça, mais j'ajoute tout de suite la conclusion. Si Moïse est mort, c'est pour sauver l'humanité. Alors vous voyez, pourquoi on ne parle pas de ces choses-là? Parce que ça ressemble tellement à des choses qu'il ne faut pas que ça ressemble, que vous savez que ça veut dire que des choses, quand ça ressemble, c'est que ce n'est pas la même chose. Sinon, on ne dirait pas que ça ressemble. Bon, vous avez compris le problème. Ça n'a rien à voir. Alors, ceci dit, pour revenir à notre problème, il faut comprendre pourquoi Moïse s'est cru autorisé à intervenir et à prier pour entrer en Eretz Israël. Je vais lire le texte de la prière et nous allons tout de suite apprendre une des réponses. Eh bien, une des réponses à travers ce midrash que nous sommes en train de lire, que nous allons étudier. Alors, verset 23 du chapitre 3. « Va'etranan el Hashem, et j'ai supplié Dieu. » Ici, vous avez un verbe. On va être occupé à l'étudier. Un verbe important, c'est le verbe leithanen. Leithanen est la racine de ce verbe, c'est un pronominal du verbe qui signifie supplier. A comme sens, la racine c'est hen, demander en grâce. Et donc nous devons comparer le verbe de vaithanan, le verbe de leithanen, avec le verbe de leithpalel, qui veut dire prier en général. Première question, quelle est la différence entre prier dans le sens de Leït Palel et prier dans le sens de Leït Hanen? Vous arrivez à m'entendre, vous comprenez la question, ok? Et je vais aller assez rapidement, mais premièrement, Leït Hanen, ça veut dire demander, supplier, sans se baser sur un mérite quelconque, alors que c'est le cas pour Leït Palel. Mais je vais expliquer quand même, même pour ceux qui ont déjà entendu, il faut le réexpliquer. Alors, Va'et Hanan, et j'ai supplié El Hashem, Dieu, Ba'etai, en ce temps-là. La clé de la réponse à ma question, c'est en ce temps-là. Qu'est-ce qui est arrivé en ce temps-là qui a fait penser à Moïse qu'il pouvait intercéder? Il pouvait demander à Dieu de sursoir à sa décision. Mais nous avons, dans tous les cas, en filigrane, la réponse que j'ai citée, c'est que dans tous les cas, il ne pouvait pas entraîner Israël. Le sort d'Israël était en jeu. Moïse sait très bien que cette génération d'Eretz Israël, du peuple d'Israël, fautera. Il le dit en clair. Alors peut-être je commence par ça. On pourrait se demander alors qu'est-ce qu'il y a prédestination, fatalité. Il y a énormément de versets où Moïse dit en clair, je sais que vous fauterez. Et même il le précise. Déjà, moi présent parmi vous, vous avez fauté. Vegan qui a hajanot, il n'y aura plus forte raison quand je partirai. Donc il le sait, c'est inévitable. Comment comprendre ça? Et ça a l'air d'être en contradiction avec un des piliers de la foi d'Israël, qu'Israël est tzadik. Ve'amer kulam tzadikim. Kol Israël, yeshlaim chelek la olam haba. Israël, en tant que clan Israël, est un tzadik gamour. C'est un tzadik. Et toute, je veux dire, Israël comme collectivité. Et toute calomnie sur Israël comme collectivité est condamnée par Dieu a priori. On pourrait citer là les versets dans lesquels Dieu intervient à propos des amis de Job, qui disent à Job que Job a sûrement fait une faute, sinon il n'aurait pas le sort qu'il a. Quand Dieu intervient, il s'adresse aux théologiens qui essayent de convaincre Job de quatre manières différentes qu'il a sûrement fait une faute, sinon Dieu qui est juste ne le punirait pas. La faute, l'erreur, c'est de croire que c'était une punition. Eh bien, Dieu intervient, on dit, vous avez mal parlé de Job. Le verset dit de Job, c'est qu'il n'a pas fait de mal. Pourquoi vous inventez qu'il a fait du mal? C'est la même chose pour Israël en général. Je n'ai pas dit que Job représente Israël. Il y a une discussion dans la Gemara. Est-ce que Job est d'Israël ou d'Égoïm? Et finalement, il y a autant d'arguments pour que contre. Enfin, pour une thèse que pour l'autre. Ce n'est pas contre, d'ailleurs. Et il semble, je dirais bien, il faudrait étudier cela. Mais on sort de Tisha B'Av, on lit Job, vous devez avoir ça, je suppose, un peu en mémoire. Il semble que Job, c'est plus le juste souffrant chez l'Égoïm, ce qui rend encore la question de la souffrance du juste de Job, parce qu'il est d'Égoïm, plus difficile à expliquer que s'il était d'Israël. Encore une fois, d'après le même principe, les Égoïms n'ont pas la Torah, alors pourquoi ils souffrent? C'est la même question. On se demande, vraiment dans la Gemara, dans la Bava Kamma, pourquoi un Goy meurt? Puisqu'il n'est pas à être jugé d'après la Torah, pourquoi il meurt? Regardez l'humour du Talmud. Hein. Pourquoi un Goy meurt? Si vous voulez, on peut étudier ça, mais tout à l'heure. Et alors, c'est pas le Talmud, c'est un petit juif. Hein. La mort, c'est pour les juifs. Mort juif. Je reviens donc au sujet. Le problème, c'est que bien que Israël, en tant que collectivité, soit tzadik, il y a une saturation des fautes de l'individu qui équivaut, qui contrebalance plus exactement le mérite d'Israël comme collectivité, comme tzadik. Et je crois qu'on pourrait profiter de ta question, ça renforce ta question. Bon, je suis rentré dans une parenthèse que je referme, mais réfléchis dans cette avenue. Et alors, c'est dans Baït Haï qu'il y a la clé de la réponse. Et il y a différentes réponses. Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps-là qui a fait penser à Moïse que Moïse avait le droit d'intercéder, enlève la xéra. La xéra, ça veut dire en français le décret. Mais gardez en mémoire la difficulté, dans tous les cas, il ne devait pas rentrer. C'est clair? Bon, la question n'est pas simple. Alors j'ai supplié en ce temps-là en disant Adonai Elohim, regardez bien comment c'est écrit Adonai Alef Dalet Nun et Yudke Vavke avec les hautes de Elohim. Je ne traduis pas, je n'explique pas, on n'est pas à ce niveau-là. Il s'adresse à un des attributs très particuliers de l'unité divine. Ata Achilota Learot et Abdecha, tu as commencé à dévoiler, à montrer, à faire voir à ton serviteur et Godlecha ta grandeur. Vetiadecha Hazaka est ta main forte. Asher Miel Bashami Ubaaret, quel Dieu serait sur terre et dans le ciel et sur terre, Asher Yaasek Maasecha Vechirborotecha, qui agit comme tu agis et selon ta vaillance. Déjà, ça c'est difficile. L'idée même de comparer n'importe quel Dieu à Dieu au niveau de la vaillance et de la puissance, c'est une idée difficile. Les autres dieux, à côté de Dieu, c'est quoi? Donc ça aussi, ça s'étudie. Mais nous avons déjà un élément de réponse. C'est que, dans les textes précédents, Dieu a déjà donné à Moïse l'ordre de conquérir les territoires dans le deçà du Jourdain. Et par conséquent, de ce qu'on appellerait aujourd'hui la Jordanie. Okay? Et par conséquent, le raisonnement de Moïse est le suivant. Si c'est à moi, Moïse, que Dieu demande d'assurer la conquête de cette partie du pays, c'est que peut-être il a suspendu son décret. Donc je peux demander pour le reste. Vous avez compris le raisonnement? Mais là, il y a une différence de nature entre la partie du pays que Moïse devait conquérir et la partie du pays à partir du Jourdain que Josué devait conquérir. Et l'interdiction de, au sujet de Moïse, c'était la partie qui commence au Jourdain jusqu'à la mer. Et alors ici, on a un problème de politique contemporaine. Eretz Israël, c'est quoi? Les deux rives du Jourdain ou une seule? Alors là aussi, c'est un sujet considérable et je crois qu'il faudra qu'une fois on l'étudie en détail. C'est que la partie à partir du Jourdain est facile à conquérir, avec toutes les difficultés que vous connaissez. Okay, mais la partie d'avant le Jourdain correspond à un niveau de l'anti-Israël d'une force et d'une gravité telle que Moïse seul pouvait maîtriser ça. Mais en fait, c'est à la fin des temps. Simplement qu'il y aura l'achèvement de la conquête d'Eretz Israël contre les 10 peuples. Il y a deux niveaux. Vous verrez d'ailleurs les différents versets où la Torah décrit les peuples qui habitent le pays qu'Israël doit conquérir. Il y a 3 formules différentes, 7 peuples, 10 peuples, 13 peuples. Et alors les 3 peuples supplémentaires sont de l'autre côté du Jourdain. Et ceux-là, c'est les plus terribles à vaincre. Alors cela, c'est Moïse qui devait le faire, Josué n'était pas capable. Et alors, du dedans de cela, Moïse a pu raisonner en disant, si c'est à moi que Dieu a demandé ça, c'est que peut-être, vous avez compris, le raisonnement est très simple. Il a commencé à dévoiler sa gloire, et on comprend la fin du verset. Cette chose impossible de subjuguer les 3 peuples, d'élite de l'anti-Israël, tu as pu le faire à travers moi, alors donne-moi le reste. Vous avez compris un peu le raisonnement? Bon, mais ce n'est pas la réponse que nous allons étudier. Notre réponse, nous allons étudier d'après le Midrash, c'est dans Baret Haï. Herberana veere taresatova, que je traverse, j'ai entendu le Jourdain, et que je vois la terre bonne. La terre bonne, c'est du Jourdain à la mer. Asher be'ever ha'yarden, qui est au-delà du Jourdain. Aharatovazir à Libanon, et ça comprend le Liban. Je ne sais pas si tu as fait allusion à cela en parlant de la tribu de Shimon, là-bas dans le nord. Non, pas Shimon. Vous avez là une opinion que le Liban fait partie des Eretz Israël. Aharatovazir à Libanon, cette bonne montagne, c'est le Hartzion et le Libanon. Bon, le Midrash va se servir du terme de Libanon pour désigner le Beth Amigdash sur le Hartzion. Et Dieu s'est enflammé de colère contre moi en votre faveur. Vous voyez, c'est sur ce Vaitraber Hashem Bilemahanchem que l'explication que je vous ai citée tout à l'heure est basée. C'est en votre faveur que Dieu s'est mis en colère contre moi. Je paraphrase, tu rentreras pas en Eretz Israël en faveur d'Israël. Parce que si tu rentres en Eretz Israël, ils sont perdus. Ils sont perdus dans quelque chose. Si jamais ils sont traîtres à leur identité, ils seront détruits. Alors tu rentreras pas pour que ce ne soit pas toi qui construise le Beth Amigdash et qu'il puisse être détruit. Vous avez compris le raisonnement? Mais je voudrais ouvrir une parenthèse plus profonde. Là, je ne vous en ai pas de source. Ça vient de la Kabbalah, donc je ne vous en ai pas de source. Ce n'est pas des choses qu'on étudie à votre âge. Alors, je vais simplement vous dire l'essentiel. Il y a un Midrash qu'on étudie à votre âge qui dit ceci. Joseph, qui a dit de lui qu'il était hébreu, sera enterré en Eretz Israël. Moïse, qui a laissé dire de lui qu'il est égyptien, ne rentrera pas en Eretz Israël. Alors ça se relie encore à notre sujet. Et effectivement, vous voyez les contextes, lorsque Joseph est arrivé en Égypte, tout le monde sait qu'il est Nahar Ivri. C'est un adolescent hébreu. Il ne cache pas son identité. Metek, enfin hébreu. En réalité, être hébreu dans la situation de ce temps-là, ce n'était pas du tout être Metek. C'était le contraire, c'était être noble, l'aristocratie du monde. Ça, c'est encore un autre sujet qui est peu connu des Juifs. Les Hébreux étaient considérés dans l'Antiquité comme l'aristocratie du monde. Mais peut-être un jour, on en parlera plus abondamment. Lorsque Abraham, lorsque Jacob vient devant le Pharaon a devant Abraham ou devant Jacob un respect colossal. Et je ne sais pas comment dire, un peu dans la mythologie, ethnologique de la culture occidentale, si on parlait des Atlantes, c'est-à-dire les nobles de l'Antiquité. Bon, c'était les Hébreux chez les nations en ce temps-là. Lisez attentivement le pshat de la Torah, vous verrez à quel point. C'est dit en clair seulement, nous, on ne se rend pas compte, parce qu'on a vécu une histoire de paria. Et bien, c'était le contraire. Elle devient histoire de paria par la suite, mais que par la suite seulement. après la mort des patriarches de Joseph, le début du livre de l'Exode. Et alors, réfléchissez bien à ça. Je vais d'abord expliquer ce midrash. Je me souviens, quand je l'ai étudié, j'ai posé la question suivante. Moïse n'a pas dit de lui qu'il était égyptien. C'est quand il est arrivé chez Jéthro que les filles de Jéthro, lorsqu'elles ont raconté l'histoire de la rencontre de Moïse, ont dit à leur père « Ish mitzri itzilanu min Elohim » Un homme égyptien nous a sauvés. Mais lui, Moïse, n'a pas dit qu'il était égyptien. En fait, il avait le type tellement égyptien que les filles de Jéthro l'ont pris pour un égyptien. Mais en fait, c'est quand même pas lui qui a dit qu'il était égyptien. Vous savez, ça nous est arrivé quand on est arrivé dans le pays. Je me rappelle la première fois que je me suis baladé à Ashdod. Et j'ai demandé mon chemin en hébreu, on m'a répondu en français. Ça a dû vous arriver, d'ailleurs. Ça vous arrive encore. Là-bas, nous étions des juifs, ici, on était français. Et puis, le 14 juillet, on va chez le consul, etc. Et alors, en fait, il y a une réponse. C'est que quand Dieu a dicté la Torah à Moïse et qu'il a entendu Ish Mitzri, Tseinanomina, il n'a pas réagi. Il s'est laissé écrire un homme égyptien imperturbable. Dieu lui a dicté, il écrit, un homme égyptien nous a sauvés. Moïse, qui met par écrit la Torah, ne réagit pas, dit quoi, moi, égyptien ? Donc, il était tellement imprégné de son identité galoutique d'Égypte, civilisation au service duquel il était et à quel poste, que tout se passe comme si on pouvait dire de lui, à un certain point, lui est égyptien ou il est hébreu, alors que Joseph, hébreu. C'est la grande différence entre Joseph, qui restait hébreu chez les Égyptiens, et Moïse, qui apparaît comme un Égyptien. Et alors, le migrant... Laisse-moi finir, tu me fais penser à autre chose. Il faut avoir un peu de patience et attendre que j'ai fini l'explication. D'ailleurs, je ne sais plus où j'étais. Le migrant, oui, ne me laisse pas passer cela. Vous voyez comment il va. L'essentiel, il y a écrit Égyptien pour Moïse, il rentrera pas en Eretz Israël. Il y a écrit Hébreu pour Joseph, il sera en tout cas au moins en terrain d'Eretz Israël. Effectivement, il faut réfléchir à ça. La vocation de diaspora occulte l'identité hébraïque. Et je pourrais dire, en reprenant notre vocabulaire, c'est là que l'identité juive, tout comme nous la connaissons, apparaît comme une espèce de, comment dire, de déguisement de l'identité hébraïque. C'est une sorte de masque de survie, de stratégie de survie chez les goïms. Qu'est-ce que c'est un juif ? C'est un hébreu chez les goïms qui fait comme s'il était des goïms. Et effectivement, un hébreu, c'est un hébreu. Alors qu'un juif est toujours judéo quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre, c'est toujours un goï. C'est-à-dire un juif, c'est un judéo-français. Mais français, c'est goy. Un juif, c'est un judéo-allemand, judéo-italien, judéo-britannique, tout ça. Et alors, nous étions d'abord judéo-égyptiens. C'est de là qu'on sait que Moïse était sfarad. Je ne sais pas si vous savez ça. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas être le Mashiach, parce que les Ashkenazis ne m'auraient pas reconnu. En tout cas, pour revenir. Vous savez que les Égyptiens sont deux rites sfarad, on n'y peut rien. Et alors... Pour revenir au sujet, il y a le juif, c'est, l'identité juive, faites attention à ce que je vous dis, hein, c'est un masque de protection de l'identité hébraïque occultée derrière. La première fois où le mot de judéen, yéhoudi, est employé dans le sens de juif, dans le sens sociopolitique de juif, c'est à propos de Mardoché. Et puis alors, le jour de Pourim, on se déguise en juif. Pour se rappeler qu'un juif, c'est un hébreu déguisé. Je veux dire, vous savez que les juifs se déguisent à Pourim. Dans les temps récents, on se déguise en n'importe quoi. Hein. Mais le déguisement traditionnel, c'était de se déguiser en juif. Et si vous allez, par exemple, à Meacharim, le jour de Pourim, vous verrez que les gosses de Meacharim arrivent à se déguiser en Haredim et ils réussissent. Et on voit que c'est un déguisement. En Haredim, en Chassidim, quand tu veux. Mais c'est vrai, j'ai remarqué ça. Je me rappelle, moi, je suis en Algérie. En Algérie, les Juifs avaient l'habitude de se déguiser en Juifs tunisiens, en Juifs marocains. Et j'ai encore chez moi mon déguisement d'enfant. C'est très joli, d'ailleurs, l'habit tunisien traditionnel, le burnous tunisien, la chéchia tunisienne, n'était pas la même que l'Algérienne. Et là, on sortait très fier, je suis juif, donc tunisien. Enfin, tunisien, donc juif. Donc, comme vous savez, la Torah est une. c'est compliqué. Alors, je reviens au sujet. Et il faut bien se rappeler de cela. l'identité juive est un déguisement protecteur de l'identité hébraïque. Et il est destiné à disparaître, ce déguisement. Et pourquoi je vous dis souvent, ces dernières années, un peu plus de manière un peu plus directe que les années précédentes, mais de plus en plus directe, que nous sommes d'origine juive. En tant que... Et il faut bien faire attention à l'emploi des mots et le sens que ça a, les mots qu'on emploie. Okay. Lorsque vous avez des chilonymes israéliens qui vous disent qu'ils ne sont pas juifs, essayez de comprendre ce qu'ils veulent dire. Okay. Et comme moi, je ressemble à un juif, Ashkenaz en plus, alors quand je vous dis que je suis d'origine juive, bon, vous souriez. Mais ce n'est pas une blague. Okay. Mes enfants sont déjà, et mes petits-enfants surtout, sont déjà des Hébreux d'origine juive. Et quand je leur raconte, moi, l'histoire de mon grand-père, ils ouvrent des yeux écarquillés. Grand-père, parlez-nous des dinosaures, la préhistoire. En tout cas, pour revenir. Mais c'est autant. D'ailleurs, vous aurez la même expérience avec vos petits-enfants, dans la mesure où ils seront Hébreux. Et alors, essayez de les engendrer, pas dans les quartiers juifs. En tout cas, je reviens au sujet. Il y a effectivement cela, que l'identité hébraïque aurait risqué de se perdre dans l'Égypte. C'est ce que ce Midrash met en évidence. Il faut se débarrasser de cette coquille, de cette clipa de galoutique pour avoir le droit d'entrer en Eretz Israël. Et ça, on l'apprend de Jacob. Et on l'apprend de Jacob. J'ai plus le temps de vous faire voir ça en détail, mais je vais vous donner la référence. C'est quand Jacob revient de son exil de chez Laban. Alors il dit à Esaü, Ger vetoshav, non, c'est ça. Et Laban garti, vaecha arata. Et alors on étudie ce que Rashi explique là. Rashi explique, et Laban garti, j'ai séjourné chez Laban, on le savait déjà. Et Rashi cite trois explications du Midrash. J'en ai une en évidence. Et dit, l'oreïti. Et la guerre. Je ne suis pas devenu ministre ou prince ou important, mais je suis resté guerre. Garti, c'est j'ai séjourné en tant que guerre, étranger, métèque. Alors quand Jacob, pour réclamer Eretz Israël à Esaü, se justifie en disant je suis resté hébreu, je ne suis pas devenu libanais chez Laban, vous savez que le Liban, c'est le pays de Laban. Okay. Et de la descendance de Laban, qu'est-ce qu'elle déguste? Et puis, je ne suis pas devenu français en France, je ne suis pas devenu égyptien en Égypte. Je suis resté guerre. Je continue, Rachid, mon père m'avait béni, cette fameuse bénédiction d'Esaïe, en disant Gevir, Gevir, ça veut dire noble, Santi Alachecha, je t'ai placé comme noble sur tes frères, Zelunikaima Bi, ça ne s'est pas réalisé en moi, dit Jacob. Je me rappelle d'un enseignement que j'ai reçu au Talmud Torah en Algérie. Vous enlevez bi de Gvir, il reste guerre. Le bi ne s'est pas réalisé. Le bi de Gvir ne s'est pas réalisé, il restait guerre. Ça veut dire, il n'y a que le juif qui se reconnaît comme étranger des goïms qui a droit à Eretz Israël. Vous voyez ce qu'il y a derrière ce midrash. Alors ce qui est important, c'est de lire ce que je vous ai annoncé, Herberana Veere. Pshat, ça veut dire que je traverse le Jourdain. Mais dans l'hébreu de la Kabbalah, ça veut dire que je me fasse hébreu et qu'au moins je vois le pays. Regardez bien, Herberana, ça veut dire que je devienne ivri. Et le verset 26 est encore plus fort. Vaitaber Hashem bi lema'anchem. Vous entendez en hébreu, je ne traduis pas. Vaitaber, la même racine. Hashem bi en moi pour. Alors vous voyez le niveau de lecture, c'est clair? Donc je reviens maintenant au sujet. Et on va lire très rapidement cette page du Midrash, parce que je vois que les préliminaires de la préface de l'avant-propos de l'introduction nous ont amenés trop loin. Alors vous prenez la page du Midrash. Vous prenez le paragraphe d'Alat. Vous y êtes ? Vaitranan el Hashem, et j'ai supplié de mon Dieu. Zeshama Katou, c'est ça ce que le verset a dit, un verset de Michelé, des proverbes. Tachanouni medaber rash ve'ashir yane azot. Il y a un verset de proverbes qui dit, lorsque le pauvre parle, il parle avec des supplications, alors que le riche parle durement. Raz, azot. Azout, c'est la grossièreté vulgaire de la dureté dans le langage. Azout. Azot, il parle des choses dures. Alors Rabbi Tachanouma a enseigné à propos de ce verset de Michelet, Tachanounim et d'Aberrach Zemoshe. La première partie du verset, lorsque le pauvre parle, il parle en supplication, ça c'est Moïse. Sheba et Selboro et Tachanounim, qui s'adresse à son créateur avec des paroles de supplication. Verrach et Anéazot. Et le riche répond des paroles dures, Rachiro Sherolam, celui qui est le riche du monde, c'est-à-dire Dieu. Zakadosh Baruchou, c'est le Saint béni soit-il, Anaoto Azot lui a répondu durement. Chez Neymar, d'après un verset qu'on n'a pas encore lu, dans le chapitre 3 de début de Vaïtranan, Aktosev Daber Elai, n'ajoute pas de me parler de ça. Ça veut dire, si j'osais paraphraser, je dirais, Moïse, arrête de prier, parce que ta prière, c'est une prière, et si je suis obligé de l'exaucer, ça sera grave. Alors arrête, ne prie plus. Vous avez compris ? Moïse a fait une prière pour son sort personnel. Et Dieu lui répond durement pour sauver Israël. J'approche un peu de la réponse qu'on cherche. Okay ? Ça me rappelle une histoire chassidique que je vais vous raconter rapidement, je crois que c'est important. C'est l'histoire de Rabbi Soussia. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de Rabbi Soussia. Rabbi Soussia est un rabbin chassid qui priait pour les malades. Et un jour, une femme juive, dont l'enfant était très malade, est venue lui demander de prier pour que son enfant guérisse. Et Rabbi Soussia se met en prière, et ça ne marche pas. À la fin, Dieu se révèle à Rabbi Soussia, il dit « Arrête de prier, je ne veux pas guérir cet enfant. » Et Rabbi Soussia qui insiste. Et Dieu se révèle à lui, il dit « Rabbi Soussia, tais-toi, tu me gênes, je ne veux pas guérir cet enfant. » Et Rabbi Soussia qui continue à prier. Alors Dieu lui dit, écoute, je vais guérir cet enfant, mais je t'enlève ta part de paradis. Alors Rabbi Soussia dit, enfin, jusqu'à présent, je te servais dans l'espoir de la part de paradis. Maintenant que je sais que je n'ai pas de paradis, mon service est l'ishma, authentique. Et en général, on s'arrête là dans l'histoire. Pour parler du service gratuit, sans part de paradis, Rabbi Soussia. Vous avez sûrement entendu ce midrash. Mais il y a une suite qui n'est pas chez les chassidim. La suite dit ceci. Alors à ce moment-là, Dieu a ajouté à Rabbi Soussia, puisque c'est comme ça, ta part de paradis, je te la rends. Mais l'enfant, je grippe. J'ai des raisons de ne pas guérir cet enfant. Bon. Quoi ? Et si jamais de cet enfant on sort un Hitler ? Alors il vaut mieux qu'il ne guérisse pas. Ça veut dire, ça c'est les Heshbonon de Ribono Sheraudam. Dieu sait pourquoi, il dit oui ou non. Et il faut avoir suffisamment d'intelligence, je ne dirais pas d'imagination, d'intelligence pour comprendre qu'on ne peut savoir ce qui arrive qu'à la fin de la série des causes et des effets jusqu'à la fin du monde. Okay ? Et par conséquent, ça peut nous apparaître comme incompréhensible, comme injuste, parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Vous savez, c'est clair ce que j'ai dit. Okay. C'est quoi ? Avec Ishmael. Ah, c'est tout à fait autre chose. C'est d'ailleurs inversé. Bachir Husham. Oui, c'est tout à fait autre chose. J'y arrive après. C'est vraiment tout à fait autre chose.
Il y a aussi l'assistant de
l'Abraham
pour sauver
Sodome et Gomorrhe. Ah, Sodome et Gomorrhe, c'est encore autre chose. Non, mais on suit cela. Altosev d'Aber Elai. Je reste dans le sujet. Ça veut dire, pourquoi Dieu dit durement à Moïse, arrête de me parler. Le verset a dit, Lema Anchel. Mais à ce moment-là, on a progressé dans l'étude. Moïse prie pour lui. Il prie pas en tant que Moïse d'Israël. Et on va voir comment le Midrash s'explique. Davar Acher, autre enseignement. Amar Rabbi Yochanan enseigne, Tachanunim yadaber rach, le pauvre parle en supplication, Elou nevié Israël. Ça, c'est la manière des prophètes d'Israël. Et c'est très important, mais malheureusement, je n'ai pas le temps. C'est la prière qui ne fait pas allusion au mérite éventuel. Ce n'est pas basé sur un droit à obtenir ce qu'on demande. Ça, c'est la tfila, l'Eit Palel. Mais rappelez-moi quand même de parler de l'Eit Palel un peu à la fin du Midrash. Alors, les prophètes d'Israël parlent. Prie comme ça, Betahanunim, Verachir, Yahane Azot, alors que le riche formule ses paroles de manière dure, Elou Nevié au Motarolam. Ça, c'est les prophètes des nations. Amar Rabbi Yochanan enseigne, En lecha tzadik be Motarolam, Yotermiyo, un enseignement de Rabbi Yochanan qui vient compléter ce qu'on vient d'entendre. Tu n'as pas un tzaddik aussi grand chez les nations. Vous voyez ici la thèse, c'est que Job représente les nations. Le juste souffrant chez les nations, pas chez Israël. Yoter, plus que Job, velo ba'ela de tochahot, et lorsqu'il s'adresse à Dieu, il ne s'adresse que en tochahot, de le traduire par réprimande. Ici, c'est dispute, discussion, non ? Reproche, oui. c'est pas exactement reproche, c'est un vikouach où je crois moi avoir raison. C'est tochacha. Tochacha, c'est...
Remontrance.
Non, c'est plus qu'une querelle. Remontrance. Il y a notre mot en français, une admonestation. Tchénéhémar, d'après un verset de Job, voilà que, comment Job demande à Dieu. Et à Elcha lefanav mishpat, je disposerai devant lui un jugement. Je le fais passer en jugement. Ve upi amalet tochachot. Et ma bouche se remplira de réprimandes. Et c'est lui qui parle à Dieu. J'ai envie de dire tout de suite, le problème n'est pas si simple. Mais là, ici, il y a un thème important à retenir et à apprendre. Il y a une manière de s'adresser à Dieu dans la prière d'Israël, une manière de s'adresser à Dieu dans la prière des païens. Alors, ne prenez pas de comparaison dans les oraisons ou les prières chrétiennes, parce qu'elles sont inspirées des psaumes en particulier, et surtout de la manière des prophètes d'Israël de prier. Mais les païens réclament, alors que le prophète prie, demande. À la limite, vraiment, c'est la différence entre la conduite magique et la conduite religieuse. Dans la conduite religieuse, on demande, et Dieu est libre d'accepter ou pas. Alors dans la conduite magique, on commande aux forces surnaturelles et qu'on prend prisonnière et qu'on oblige à obéir. La formule du rituel magique, c'est abracadabra. Ça vient d'une formule araméenne, abracadabra, que ça se passe comme je dis. Abracadabra. C'est devenu abracadabra. Okay. Et il y a quand même une exception dans un verset que je voudrais vous citer. Nous avons un verset dans le psaume. C'est le psaume, j'ai noté la référence, le psaume 81, verset 5. C'est un psaume qui est dit très souvent. Qui chok le Israël hu, mishpat eloke Yaakov. Le pshat, c'est chok le Israël hu. La loi appartient à Israël. Le jugement appartient au Dieu de Jacob. Qui chok le Israël hu, mishpat eloke Yaakov. Ça, c'est le pshat. C'est clair? Bon. Et il y a une lecture qui n'est pas le pshat, qui dit comme ça, qui chok le Israël hu, lorsque la loi est pour Israël, mishpat eloke Yaakov, le jugement c'est pour le Dieu de Jacob. Vous avez compris la différence? C'est-à-dire, si Israël est dans son bon droit, alors il fait passer le Dieu de Jacob. Vous retrouvez un petit peu votre problème différent en jugement. Bon, ça frôle la pikrosiut, okay? Ça frôle le blasphème, mais c'est de comprendre ce que ça veut dire. Okay? Et alors je reviens au Kaddish du Rav Lévi de Berdichev. C'est quand ça commence, si je me souviens bien, je ne l'ai pas entendu en hébreu, j'ai entendu en yiddish, mais ma femme a traduit. Ça commence que c'est le Rav de Berdichev qui cite Dieu en jugement. C'est bien ça, okay? Et il dit, allez, on va disputer. Mais il y a des passages chez les prophètes où Dieu dit à Israël, vous avez un problème, alors on juge. Okay? Vous avez un problème contre moi, alors on va... Interpellez-moi, on juge. Et je me rappelle qu'après la Shoah, il y a de très grands rabbinim, rescapés de la Shoah, qui ont dit un kaddish. Non, alors ça c'est pour me dire, je ne dois pas vous dire ça. Alors je vous en prie, on continue. L'enseignement de Rabbi Yochanan, c'est... Non, c'était une blague, mais enfin, on n'a pas le temps. Premier enseignement de Rabbi Yochanan, les prophètes d'Israël parlent en... Tachanunim, alors que les prophètes des Goïm parlent en Torahot. Et d'où on l'apprend? De Job. En passant, on apprend qu'ici, c'est la thèse où Job représente le juste souffrant des nations. Vous suivez? Est-ce qu'il y a une place libre? Bon, essayez d'en trouver une, il ne convient pas de temps. שנאמר, אהל חליפן המשפט וחרמני תוכחו. אין לך גדול בנביאים ממשה וישעיה. Il n'y a pas plus grand chez les prophètes que Moïse et Isaïe. Où שניהם לא באו אלא בתחנונים. Et chez les deux, on voit que le style de la prière, c'est la prière de supplication qui ne se base pas sur un mérite qui donnerait des droits. ישעיה אמר, Isaïe a dit, השם חוננו לך קיבין. Dieu exauce-nous en grâce. Nous espérons en toi. Où Moshe Amar va être Hanan et Hashem. Et Moïse a dit dans notre texte, et j'ai supplié Dieu. Encore une fois, ce n'est pas les Hitpalel provoquer un jugement pour savoir si j'ai droit. Davar Acher, autre enseignement, va être Hanan et Hashem. Cette expression, l'Ema, Davar Domé, à quoi ça ressemble? Les matrona chez Aldaben, à une matrone qui a eu un fils. Kol Yamim, chez Bana, chez Bena, Kayam, tant que son fils est vivant, Aïta Nikhneset, Baparatim Bizroar, elle entrait au palais en force. Metbena, son fils étant mort, Etrila Mevakeshet, Kukanes Betrinot. Elle allait chez le roi au palais avec supplication. Vous comprenez l'explication. Car, ainsi, Kozman Shayu Israël Kayamim Bamidbar, tout le temps où Israël était vivant, existait dans le désert, il s'agit de cette génération qui est la génération de Moïse, que Moïse a fait sortir d'Égypte. Tout le temps qu'Israël était Kayam, Bamidbar, Ayam Moshe Nichnas, Nivna Kadjibor, Khubizroar, Moïse intercédait devant Dieu avec force. Par exemple, dans Shemot, Nama Hashem Yefer Apecha, lorsque, après la faute du Vaudor, Moïse dit ce verset devant Dieu, pourquoi mon Dieu, ta colère s'enflammerait-elle vers Alecha contre ton peuple? Alors là, je voulais ouvrir une longue parenthèse pour expliquer ce verset. C'est pour ça que je vous avais demandé de préparer le livre de Shemot. Mais je vois qu'on n'a pas le temps, on fera une autre année. Et Moïse, donc, la génération d'Israël dont il était responsable étant là, a la force de réclamer. Et il dit, c'est l'achna la ravona arasé, pardonne donc, c'est presque un ordre à ce peuple. Et effectivement, Dieu va répondre, salarti kidvarecha, j'ai pardonné comme tu m'as demandé. Ça veut dire, la parole de Moïse était forte. Pourquoi? Parce que Israël, dont il était responsable, était présent. Kivan, shemetu Israël. Dès que Israël est mort, cette génération, Bamidbar dans le désert, Itrimi Bakesh, Likanes, Beres Israël, Betachanonim, il a demandé à rentrer en Eretz Israël en supplication. Oui, le Midrash est très clair. Alors notre réponse est juste après. Ba'et Ahilem, en ce temps-là, en disant, Be'ezeret, Be'otoet, Shenit Mana Yehoshua. À l'époque où Josué a été désigné comme successeur de Moïse. Alors le raisonnement de Moïse était comme ça. Maintenant, c'est Josué qui va rentrer en Eretz Israël, pas moi, à la tête d'Israël. Donc je veux rentrer comme personne privée. Et par conséquent, la clause que c'était dangereux pour Israël, que Moïse, chef d'Israël, entre en Israël, tombe. C'est maintenant Josué, le chef d'Israël. Vous avez compris comment le problème est résolu. Alors je voudrais quand même, très rapidement, vraiment on a vu que des petites choses du sujet, mais vous comprenez pourquoi il faut étudier en hébreu, d'accord ? Parce qu'en hébreu ça va plus vite, on aurait pu voir que la moitié d'un mot. Mais en tout cas, l'étymologie de Lehit Palel. C'est le pronominal du verbe palol. Et le mot palol, en hébreu, ça veut dire juger, plili, pénal. Lehit palel, ça veut dire se juger soi-même. Ça veut dire provoquer le jugement de soi par soi. C'est une prière, une conduite de prière bien précise. Je demande, mais est-ce que j'ai droit? Alors j'entreprends, je prends l'initiative de demander à Dieu de me juger pour savoir si j'ai droit. C'est pourquoi la prière comme tefila est très périlleuse. Parce que dès que je suis jugé, je suis jugé. Et alors, où ça va mener? Et c'est pourquoi les rabbins enseignent qu'il faut toujours prier en minyan. Parce que le minyan est tzadik. Et on est à l'abri du clan Israël dans un minyan. Ceci dit, on a bien entendu le droit de prier quand on est seul. On a aussi le devoir. Mais à ce moment-là, il faut savoir, vous avez une Mishnah des Pirkei Avot qui dit, ne fais pas de ta prière quelque chose de fixe, mais tahanunim lifna makom. Prie en supplication. La prière de Tfila n'est pas dangereuse, je dirais, attendez, je cherche un mot pour être plus précis, elle est non seulement autorisée, mais permise, que dans le minyan. Et alors là, je dirais que toujours, à ce moment-là, apparaît une question. Mais pourtant, les femmes n'ont pas besoin du minyan pour prier. Alors il faut comprendre qu'il y a ici un problème important. Je ne fais que le signaler. En passant, une femme est à elle toute seule un minyan. D'ailleurs, en prononciation ashkénaze, ça s'appelle une minyane. Et alors ça on étudiera un jour pourquoi il y a des questions de halakha bien précises, pourquoi la prière chez les femmes peut se faire même sans le minyan, alors pas chez les hommes. Le minyan est l'abri de la prière individuelle chez les hommes. Il y a un indice, vous allez voir dans quel détail ça va. C'est que juste avant de commencer le Shemoneh Esrei, vous avez remarqué, on fait trois pas en arrière, puis trois pas en avant. Ça veut dire, on sort de son Reshut Hayachid pour rentrer dans le Reshut Arabim. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? C'est-à-dire, on sort de son air individuel, A-I-R-E, et on rentre dans l'air collectif. Et à la fin de la prière, on sort de l'air collectif et on rentre dans l'air individuel. Vous avez compris comment c'est signalé par ces trois pas? Et d'ailleurs, dans les anciens rites faradis, c'est encore vrai chez les Espagnols, chez les sfaradims de rite espagnol. Je vous donne un exemple. Nous avions toujours un sfaradi au cours, mais ce soir, il n'est pas là. Enfin, il y a beaucoup de sfaradis, mais ce n'est pas des vrais sfaradims d'origine. C'est des judéos arabes. Alors, je parle des judéos espagnols. Vous avez ceux qui ont habité à Paris, la communauté de la rue Saint-Lazare. Ça vous dit quelque chose?
Oui.
Voilà, c'était ce rite-là. C'était ce rite-là, maintenant c'est algérois. Mais avant, c'était le rite turc, sfarade espagnol. Est-ce qu'il y a des Lyonnais parmi vous? S'il y a des gens de Lyon, c'est la communauté de la rue Montesquieu, à l'origine. C'est ça, donc tu es loin de ces gens-là. Non, mais maintenant, la Montesquieu, elle est nord-africaine, mais avant, elle était turque. C'était des communautés fondées par les juifs turcs venus après la Première Guerre mondiale en France. Alors, il y a une habitude que les chassidim ont gardée, qui est qu'avant de commencer le Shmoneh Esrei, on se tourne vers les membres du Minyan en se saluant. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça.
Le
Ben Israël, lui aussi. Et on doit penser vers Aftal et Achakamocha à ce moment-là. C'est-à-dire, on fait le clan Israël. Et c'est sérieux. Il y a une halakha à ce sujet, qui est interdit de prier dans un minyan où on croit qu'on a un ennemi. Parce que ça vient à une hypocrisie totale. On va prier ensemble dans un clan, et j'ai un ennemi dedans. C'est, vous savez, la blague de la synagogue où je ne vais pas. Mais c'est réciproque. Et vous, c'est bien ça. C'est une hypocrisie absolue de faire minyan ensemble là où on croit qu'on a un ennemi. Réfléchissez à ça. Vous voyez pourquoi il y a Knesset Israël et il y a la Knesset. Bon, eh bien, on se verra. Oui, mais vous voyez.
On peut prier à l'arbitre dans 5 minutes.